9h18 minutes. Comment l'hypnose a changé ma vie, c'est le titre de cette biographie de Mesmer qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Première question, l'idée d'écrire un livre, de raconter votre vie, c'est venu comment? C'est un rêve que vous aviez, quelqu'un vous l'a proposé?
Je pense que c'est plus mon producteur qui voulait ça.
Ah oui, c'est vrai? Bon,
non. Non, je le dis à la blague. Ben, c'est vrai que je racontais mon histoire souvent à mon producteur et à mes collègues de travail. Puis ils me disaient, tabarouette, tu pourras faire un livre avec ça. Je dis, ben, t'es sûr? J'étais certain. Je dis, oui, écoute, toutes tes anecdotes et tout ça, je pense que ça ferait quelque chose qui intéresserait le public. Parce que souvent, en entrevue, on n'a pas le temps d'en parler.
Non, c'est vrai.
Et alors, dans le livre, ben, ça nous a permis de pouvoir un peu, on pourrait expliquer ma vie, comment l'hypnose est rentrée dans ma vie, comment ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Là.
Vous êtes originaire de Saint-Césaire.
Ouais.
Et une famille, j'allais dire nombreuse, mais quand même cinq enfants. C'est une bonne famille au Québec. Ouais. Et on sent que ces questions-là, appelons ça des dons d'hypnose, ça, vous avez baigné dans ça durant toute votre enfance.
Oui, absolument. On a baigné là-dedans, mais c'était pas connu du grand public autour de nous, parce que avec les regards qu'il y avait sur... quand tu commences à parler d'hypnose, imaginez, dans les années 80, ou quand moi j'ai commencé à parler d'hypnose, je comprenais pas pourquoi les gens me voyaient, me regardaient de façon bizarre, puis il y en avait qui avaient peur et tout ça. J'ai compris par la suite que oui, c'était quand même... quelque chose qui était hors norme pour le public ou les gens qui étaient là dans mon petit village natal. Et mon grand-père aussi, à l'époque, qui en faisait, lui aussi se faisait traiter un peu de charlatan ou des trucs comme ça. Alors, on a baigné là-dedans un peu. Alors, on a toujours gardé ça un peu plus secret. Et moi, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire des shows. Et là, j'ai commencé à en parler un peu plus. Mais avant ça, c'était un peu plus, on pourrait dire, un sujet très chaud ou tabou autour de nous. Là.
Mais ça veut dire qu'autour de vous, il y avait des gens qui avaient... Je sais jamais le bon terme.
C'est dur de dire don, hein.
C'est pas des dons. Arrêter le sang, là, on a tous entendu parler de ça au Québec, là.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y avait quand même des gens dont on parlait dans le village qui avaient ces dons-là.
Ouais. Mais en même temps, c'est pas des dons, hein, parce qu'avec les années, on comprend que l'être humain, notre cerveau est puissant. On peut faire de grandes choses avec ça. On peut aider les gens, on peut s'aider à se guérir soi-même, on peut travailler sur notre corps. Notre cerveau est assez puissant pour nous aider à régénérer les tissus de notre corps pour une guérison plus rapide. Et les scientifiques, maintenant, les chercheurs se penchent là-dessus, la médecine aussi. Et il y a des bons résultats qui sont prouvés, qui nous aident à comprendre qu'une personne qui est traitée avec la puissance de l'esprit, sans dire le mot hypnose, parce qu'il y a plusieurs techniques, la sophrologie et tout ça, qui peut nous aider à avoir une régénération du corps beaucoup plus rapidement. Au niveau mental, mais même au niveau physique, on peut travailler là-dessus.
Le côté scientifique, je vais vous en parler à la fin du livre, notamment sur des recherches en France. On va y revenir, mais comment un enfant qui, normalement, je dis bien normalement, est supposé être passionné de hockey, de musique ou je sais pas quoi, là, il se commande des livres, puis il se bâtit une bibliothèque d'ouvrages de référence comme ça?
Ben écoute,
sur l'hypnose.
On était dans la famille, on est cinq enfants justement, puis mes trois frères plus vieux, eux ont joué au hockey, ok? Et moi, je suis le petit dernier. Moi, je suis arrivé 7 ans après ma sœur cadette. Alors, je suis le petit dernier. Alors, la passe de hockey, les parents qui vont à l'aréna, ça a été fini. Moi, j'ai pas été plongé là-dedans. Et ça me faisait peur aussi. Je voyais mes frères qui arrivaient avec le nez qui saignait ou, tu sais, il y avait eu des batailles sur la patinoire parce qu'à l'époque, ça arrivait souvent, même quand les jeunes jouaient au hockey, ça se tiraillait sur la patinoire. Et moi, ça m'a toujours fait peur, puis je voulais pas m'insérer dans le hockey. Alors, ben moi, c'était justement la lecture de ces livres-là. Et quand j'ai eu des preuves que ça marchait, là, j'ai plongé là-dedans encore plus. À 9 ans, avec mon ami Ghislain, c'était mon premier cobaye, quand j'ai vu que ça marchait réellement, alors là, j'ai plongé là-dedans. Et honnêtement, étant jeune, tu penses que tu as un pouvoir magique quand tu dis, écoute, je vais me contrôler mon professeur, j'aurai plus de devoirs à l'école. T'as 9 ans, tu penses à tout ça. Je vais contrôler ma mère, mon père et tout ça, mais c'est pas ça, l'hypnose, c'est pas ça. Mais
la femme que je vais choisir va m'aimer.
Oui, c'est ça.
Et c'est pas ça non plus.
Ben écoute, avec la nouvelle que j'ai, peut-être, c'était un de mes sujets sur scène, alors. J'ai dit la prochaine que je vais
allez-vous
avoir.
Allez-vous claquer des doigts pour la réveiller, non?
Ah, pardon?
Allez-vous claquer des doigts pour la réveiller?
Non, pas encore.
Pas encore, OK.
Ça fait 7 ans que je suis avec elle, alors je vais attendre encore quelques années.
Mais vous avez testé aussi avec les animaux. Ça, je savais pas ça. Ça m'a pas mal étonné. Avec un chat, ça a pas marché vraiment, mais avec un chien, oui.
Avec un chien, oui, parce qu'on a tous des zones hypnogènes. On apprend ça, surtout dans l'ancienne hypnose qui date dans les années 1800. On appelait ça des zones hypnogènes. Par exemple, le bout des index, ça peut être le bout du coude, des points d'ancrage que nous allons créer. Alors, ils appelaient ça des zones hypnogènes et les animaux ont ça. OK, des zones hypnogènes. Alors, si tu touches un animal à tel ou tel endroit, il va se mettre en mode protection. On peut le voir avec les crapauds aussi, les grenouilles. Là, on prend, hein? Ouais, ouais, si on prend une grenouille et qu'on met notre pouce sur son ventre et nos quatre doigts sur son dos et qu'on fait une légère pression, elle tombe en catalepsie. C'est une question de protection, hein. C'est pour s'en empêcher. Elle va faire croire qu'elle est morte pour que le prédateur ne va pas la manger. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne chez les animaux. On peut pas les hypnotiser puis les contrôler, leur dire quoi faire. Quoi qu'un chien peut comprendre un peu les consignes, mais sinon, un crapaud, tu peux pas lui dire maintenant, tu vas parler français. des trucs du genre. Mais ça marche avec les animaux, mais c'est des techniques différentes. C'est pas de l'hypnose, c'est des zones hypnogènes.
Et je vois dans le parcours, bon, vous avez quitté l'école, vous avez essayé une couple de métiers, vous avez même ouvert un bureau. Un cabinet pour recevoir des gens, pour faire de l'hypnose, bon, arrêter de fumer, enfin, un paquet de ce qu'on pouvait vous demander. Mis à part l'arrêt de la consommation de cigarettes, les gens allaient voir pourquoi des douleurs, des...
Souvent, c'est des phobies.
Des peurs,
ouais. Les peurs, les phobies, comme la peur des araignées, la peur de l'avion, la peur des foules. Je me souviens une fois, une dame qui est venue me voir, je dirais pas son nom pour l'éthique professionnelle, mais une dame qui est venue me voir qui, elle, avait peur de dormir la tête sur le mur droit de sa chambre parce qu'elle savait que son voisin dans l'autre appartement dormait la tête sur le côté gauche. Alors, il y a plein de peurs comme ça qui existent, des pathologies qu'on peut traiter avec l'hypnose. Ça marche très bien. Puis aussi, il y a des problèmes psychosomatiques. Toutes les maladies psychosomatiques qui peuvent être traitées facilement avec l'hypnose. Au niveau physique, par exemple, l'eczéma, des trucs qui ressemblent à ça, l'acné, peuvent être aussi traités. Le cerveau va décréter ce qu'il a besoin de sécréter pour aider la personne à guérir ou améliorer les conditions de la peau. Alors, ça marche aussi.
Vous dites dans le livre, à un moment donné...
Attends, juste dire que c'est pas miraculeux, mais il faut travailler avec la personne puis prendre le temps de le faire aussi.
OK, vous dites dans le livre... Dans un cas, par exemple, je vais pas guérir la personne, je suis pas un médecin, là, mais je peux soulager la douleur. Je peux amener la personne à moins souffrir.
Exactement. Et ça marche très, très bien aussi. Et quand la personne ne souffre pas, ou quand elle ressent moins la douleur, elle se sent apaisée. Et quand le corps ou l'esprit se sent apaisé, ça va aider la régénération du corps. Et maintenant, on le voit même ici, certains hôpitaux qui s'en servent au niveau au niveau du cancer. Quand on a des traitements de chimio, par exemple, qui sont très douloureux, on peut aider la personne moralement à se sentir bien et aussi à éliminer la douleur qu'elle va ressentir après les traitements. Et ça va l'aider à améliorer sa condition. Alors, c'est beaucoup plus naturel comme médecine. Et j'ai toujours dit que si on arrivait à combiner la médecine traditionnelle avec la médecine de l'esprit, la force de notre cerveau, on pourrait faire des miracles avec ça.
Notre invité ce matin, Besmer, le titre du livre publié chez Michel Lafon, « Comment l'hypnose a changé ma vie ». Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le côté plus divertissement? C'est-à-dire que, et là, on le voit, là, vous avez fait le parcours de ben des humoristes, ben des chanteurs, des petites salles, faire des tournées régionales pour finalement connaître le succès que vous avez.
Ouais, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'ai eu mon cabinet, puis les gens venaient me voir en dernier recours. Ils me disaient, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre, aller voir un hypnothérapeute, et je trouvais ça très dommage que cette science-là, cette médecine-là, qu'on pourrait dire ça comme ça, n'était pas connue, ou avait pas vraiment les notes de noblesse. Alors, j'ai voulu, avec le spectacle, démocratiser tout ça, montrer aux gens que ça marchait. Et il n'y a rien de mieux qu'un show où on attire des foules avec le rire, une mise en scène cocasse, drôle, ils se divertissent, mais en même temps, on peut passer un certain message. Et les gens qui sortent du show sont premièrement convaincus parce qu'ils ont vu quelqu'un qu'ils connaissent ou ils l'ont vécu eux-mêmes. Et deuxièmement, mais s'ils sont pas convaincus, ça va poser des questions, ça va créer des débats, on va en parler. Et ça a été comme ça au Québec. Et maintenant, on voit que les cabinets d'hypnothérapeutes sont remplis parce que les gens voient Mesmer à la télé, ils comprennent que ça peut les aider. Et en France, c'était le même parcours. Quand j'étais arrivé là-bas, il y avait tous les charlatans qui faisaient des shows avant moi là-bas. Des Dominique Webb, par exemple, qui avaient été... que les gens avaient découvert qu'ils payaient des complices sur scène. Alors, j'ai dû ramer à contre-courant.
Mais là, vous avez vécu avec ça. Vous racontez dans le livre, je pense, c'est un des premiers journalistes que vous rencontrez, Michel Denisot, je pense. La première question, c'est, dans le fond, c'est pas est-ce que vous faites des trucages, c'est quels sont les trucages?
Quels sont les trucages? Les gens étaient persuadés de ça. Il n'y en a pas de trucage. Et moi, ma force, c'est quand j'arrivais en Europe, j'arrivais, par exemple, le journal Le Parisien ou le journal Le Monde ou à TF1, par exemple. On regroupait tous les journalistes de la place, une vingtaine de journalistes qui sont assis, les bras croisés, qui se disent « Ah ouais, impressionne-nous, là ». Et moi, j'arrivais, je suis capable de me sortir de ces situations-là. J'hypnotisais plusieurs personnes de ces journalistes-là. Alors, la crédibilité s'est fait comme ça. Et quand tu vois ton confrère de travail qui vit l'expérience, ben, t'as pas le choix d'y croire. Tu fais, écoute, lui, je le connais, il ferait pas semblant. À ce moment-là, ça m'a donné une crédibilité. Ça m'a donné tous les tabloïds possibles de gauche, de droite, ont tous été, on pourrait dire, charmés ou fascinés par Mesmer et sont venus voir le show par la suite. Et ça a découlé comme ça. Les émissions de télé sont arrivées aussi. Arthur, c'était la même chose. Arthur croyait pas à ça. Mais quand je l'ai hypnotisé sur son pupitre à son émission, en direct. Écoute, ça a été pour lui une illumination. Ça lui a donné une idée de faire l'émission Star Souci.
Mais en même temps, là, ça marche pas avec tout le monde.
Ça marche pas avec tout le monde, et ça, je le dis. Ben oui, ça marche avec tout le monde, mais à des niveaux différents. Il y a des gens avec qui on va travailler pendant plusieurs séances d'une heure, par exemple, pour réussir à créer un phénomène. Il y en a d'autres pour qui c'est plus rapide.
Mais ça, est-ce que vous le détectez? Prenez Arthur, ouais. Là, vous êtes en direct, là, ouais. Vous avez intérêt à ce que ça marche, là.
Ah ouais, écoute, c'est toujours sans filet. C'est toujours sans filet, mais à quelque part, j'ai ma petite voix intérieure. Moi, je parle dans mon livre qu'il faut écouter notre voix intérieure, nos signes, et suivre les signes qui nous arrivent. Et j'ai ma petite voix intérieure qui me dit « OK, vas-y, essaye-le. » Et là, on est en direct. Là. Il y a Nagui que je savais qui était super bon. Nagui est un animateur télé, mm-hmm. Pas très connu. Je l'avais déjà testé lors d'une autre émission. Ça avait vraiment marché. Alors, je savais qu'avec lui, ça marchait. Mais là, Arthur, je l'avais pas testé. Mais ma petite voix intérieure me disait « Vas-y, tu vas l'avoir. » Puis finalement, écoute, ça a marché directement. Ouais.
J'allais dire, là, j'ai un peu en tête Copperfield, qui a commencé à faire de la magie, puis qu'à un moment donné, tu repousses. Ouais. Puis là, c'est la Statue de la Liberté, puis bon. Ouais. Vous avez commencé, évidemment, avec les gens sur scène, puis là, faites monter les gens, puis là, après ça, tu dis, OK, là, on va aller dans un amphithéâtre comme le Centre Bell. Vous avez quoi, le record du nombre hypnotisé, de gens hypnotisés en même temps?
Oui, ça, c'est au Centre Vidéotron en 2017, je crois. Oui, janvier 2017, où j'ai hypnotisé 854 personnes.
Comment est-ce qu'on fait ça pour hypnotiser 850 personnes dans un amphithéâtre?
Oui,
c'est ça. Non, mais c'est parce que tu dis...
Ça fait tout un show, en tout cas, oui.
Ça, je suis convaincu, ouais. Mais là, tu dis... Puis là, je pose la question très honnêtement. Faut-tu mêler des gens avec qui vous le faites puis d'autres qui font...
Non, absolument
pas. C'est-tu l'effet de la foule? Vous êtes sur la scène puis ils sont un peu partout, là, tu sais?
Ben, disons que la force de l'esprit, hein, ça se propage, hein. C'est, bon, il y a 6000 personnes qui sont dans le Centre Vidéotron et là, je fais mes tests de réceptivité, là. Ceux qu'on a déjà vu à la télé où je fais rapprocher les mains des gens ou les doigts qui se collent et tout ça. Alors, je le fais avec ce groupe-là. Il y a 6000 personnes qui sont là et... En statistique, je sais qu'il y a environ 10 à 15% de gens réceptifs rapides, à l'hypnose rapide. Alors, moi, je me dis, bon, s'il y a 6000 personnes, 10%, ça va faire 600 personnes, au moins minimum, qui vont être réceptifs. Mais au-delà de ça, j'ai peaufiné des techniques qui m'aident à hypnotiser des gens ou une foule avec des techniques simples, rapides, qui vont stimuler le subconscient des personnes qui sont présentes. Et oui, l'effet de la foule fait en sorte qu'il y a une concentration collective qui arrive. Même avec le CNRS, quand j'ai travaillé à Paris, on a découvert que l'être humain peut se connecter ensemble. Okay? Un groupe de personnes qui pensent à la même chose en même temps va créer une connexion, un peu à l'image d'un Bluetooth. Alors moi, je me suis dit, bon, si on réussit à créer cette connexion-là avec les 6000 personnes qui sont là, ben, on va réussir à aller plus loin. T'sais. Et c'est comme ça un peu que je fonctionne. Ouais.
Et même à distance?
À distance aussi, ça peut se faire.
Au téléphone.
Et,
ça, là, j'avoue que ça...
Ouais, on peut aller plus loin que ça aussi. Là. Dans ma dernière émission que j'ai fait avec Gino Chouinard, l'expérience Mesmer qui a été passée à TVA, j'ai hypnotisé Laurence, une comédienne ici québécoise, qui est rentrée en transe dans son subconscient et je lui ai donné le nom d'une personne qui avait un handicap physique. Il manquait un bras puis une jambe. Mais Laurence ne connaît pas cette personne. Alors seulement qu'avec son prénom, et l'âge de cette personne-là, Laurence a pu appeler le subconscient ou l'énergie de cette personne-là qui est handicapée et elle a pu trouver son handicap seulement qu'en la touchant dans l'invisible. C'est assez particulier.
Mais là, il y a 80% du monde qui m'écoute puis ils disent que non, ça se peut pas votre affaire.
Ben, ça
êtes-vous en train de m'endormir solide avec...
Non, regardez l'émission avec Laurence, l'extrait qu'on l'a fait. Laurence, elle pleure parce qu'elle a... pu sentir la connexion de cette personne sans la connaître, qui était dans son esprit, elle l'a appelée, puis mentalement s'est connectée à elle. Et ça fait des années que je fais ça, mais je n'osais pas en parler à la télévision parce que, justement, les commentaires de gens qui disent, ben écoute, c'est arrangé, c'est truqué, ça se peut pas, nanana. Mais je pense que les gens sont prêts maintenant à aller plus loin puis à découvrir tout ça.
Est-ce que je me trompe si je dis que, parce que vous incitez beaucoup vers la fin du livre sur les recherches qui sont en cours, là, ouais. Qui, on connaît les résultats, d'avoir une espèce de validation scientifique de ce que vous dites?
J'aimerais ça, pas seulement pour moi, mais pour toute la profession qui travaille dans ce domaine-là, et pour un peu montrer que, justement, que l'être humain a cette capacité, cette force, cette puissance-là. Moi, j'ai gravi là-dedans, c'est normal pour moi, mais pour les majorités des gens qui ne connaissent pas ça, ça paraît du surnaturel, ça paraît vraiment quelque chose qui est arrangé, mais c'est là. On peut réussir à faire ces connexions-là et se parler entre nous à distance. La télépathie qu'on parle depuis des années, là, bon, ben ça peut exister aussi, cette connexion-là, quand elle est établie. On ressent les choses que d'autres personnes ressentent. Et la science est en train de prouver ça. Moi, j'ai travaillé avec le CNRS à Paris, et ils m'ont mis un casque sur la tête, un casque à IRM, il y a 64 capteurs là-dessus. Et il y avait des gens qui étaient hypnotisables et d'autres moins hypnotisables. Et on a pu voir cette connexion qui s'établissait entre mon cerveau et le cerveau des gens hypnotisables. On a pu voir ça, cette connexion-là. Alors, quand la connexion est établi là, ensuite, mais l'information peut passer. On peut envoyer une pensée, on peut recevoir, on peut ressentir ce que l'autre personne ressent. Cette connexion existe et ça a été prouvé, ça. Alors, la science continue d'avancer, on continue de comprendre comment ça marche. Il y a encore une grande part d'inexplicable là-dedans. Mais écoute, je pense que on pourrait dire que les shows que je donne, les gens maintenant, ils croient un peu plus parce qu'ils l'ont vécu. Et là, ça ouvre des portes à la recherche.
Et là, vos fils préparent la relève?
Oui, absolument.
Les deux?
Oui, les deux, les somnifrères. Un jeu de mots. Alors, ils vous adorent comme un somnifère, mais c'est vrai, c'est les somnifères.
Mais là, vous avez dit dans le livre, en fait, vous dites dans le livre que quoi, ils ont fait ça sans que vous le sachiez, ou en tout cas qu'ils ont...
Ben écoute, ils sont venus remplacer ma femme qui est enceinte de ma toute dernière. Là. Ma femme, c'est elle, mon assistante sur scène, Bélair. Et elle a dû prendre des congés parentaux pour sa grossesse. Et mes fils sont venus la remplacer sur scène pendant qu'on faisait les tournées européennes. Et je pense qu'ils ont été shootés à l'adrénaline complètement quand ils ont senti le public qui est là, quand tu as des salles de 3 4 000, 5 000 personnes qui sont là, qui applaudissent. C'est quelque chose, c'est une belle énergie, ça. Et je pense qu'ils ont grandi là-dedans aussi depuis tellement longtemps qu'ils ont l'instinct de l'hypnotiseur de spectacle, en tout cas du papa, là. Et c'est facile pour eux de le faire. Et un jour, ils étaient tous les deux dans la voiture. Moi, je conduisais, puis on changeait de ville. Et là, je les entends commencer à parler de montée de mise en scène. Nanana, puis ça a pris, je pense, 2 heures, puis le show était monté. Je fais, ah, OK, ils l'ont l'affaire. Ouais. Ouais. Puis là, moi, j'étais là un peu pour les mettre sur la traque, un peu, là, pour améliorer la mise en scène. Mais sinon, non, ils sont vraiment bons. Puis ils commencent, là, ils font beaucoup d'événements privés, corporatifs, les levées de fonds, tout ce que je peux plus faire, moi, maintenant que je suis dans les grandes salles de spectacle. Alors, eux font ça. Écoute, je pense l'année passée, ils ont fait à peu près 100 dates dans leur année. Alors, c'est quelque chose qui est quand même une grande demande pour ça. Puis c'est les fils de Mesmer, puis ils sont bons. Puis écoute, non, ils ont une belle carrière en vue, je pense.
Sentez-vous des différences culturelles quand vous vous promenez, le public québécois, français, asiatique? Est-ce qu'il y a des...
Bien, québécois, français, j'ai pas vu vraiment de différence. Mais quand je suis arrivé à l'île de la Réunion pour faire des shows là-bas, ou à Papeete ou Bora Bora, là, oui, là, il y avait quelque chose de culturel. Le côté voodoo, le côté esprit, possession était très présent. J'ai dû faire plusieurs vidéos pour dire aux gens, écoutez, on prend pas possession des âmes de personne.
On
est là pour
s'amuser. On vous pique pas avec une poupée, là.
Non, c'est ça. Alors ça, c'est, oui, au niveau culturel, il y a ça qui a fait un changement. Et je vais faire un show au Maroc très bientôt. Alors là aussi, il y a quand même une culture. Quand je suis allé faire des shows là-bas, pas faire des shows, mais j'ai fait une émission de télé où j'avais hypnotisé Michael Youn à Montréal. Lui, je l'avais réveillé à Marrakech, sur la plage de Melfina. Alors quand les gens m'ont vu réveiller ou hypnotiser Michael Youn au Maroc, écoute, j'ai été perçu comme un marabout. C'est comme ça, eux autres là-bas, les marabouts. Alors, ouais, j'ai vu que le regard avait changé. Alors, ouais, il y a quand même beaucoup de travail à faire là-bas pour démontrer que c'est pas du satanisme.
Quand vous renouvelez vos spectacles, là, je comprends, il y a la mise en scène, mais est-ce que vous avez des défis? Est-ce que vous vous dites, là, je suis rendu à telle étape de ma carrière?
On essaie toujours de se surpasser, absolument, parce que l'hypnose reste l'hypnose. Hein. Ça reste que j'hypnotise des gens sur scène, mais c'est les aventures qui peuvent changer autour. Comme un comédien ou un humoriste qui va faire... Il va faire de l'humour. Son prochain show, ça va être encore des blagues, mais c'est la façon d'amener la blague qui va être différente. Avec l'hypnose, mon spectacle, c'est ça. Et là,
Mais est-ce que les gens s'attendent à ce que ce soit de plus en plus spectaculaire?
Je pense que oui. Puis en même temps, nous, pour moi, c'est un défi d'aller toujours plus loin, puis de démontrer encore plus, encore mieux notre capacité au niveau du cerveau. Comme le numéro que j'ai fait à la télé avec Gino, où la personne s'est connectée avec une autre personne sans même la connaître, éventuellement, ça va peut-être faire partie de mon prochain show. Là, pour l'instant, je suis dans les cinq sens, avec la réalité virtuelle, où j'hypnotise les gens seulement qu'avec un casque virtuel. Moi, je suis même plus là pour les diriger. Tout se passe dans le casque virtuel. Et c'est un numéro qui est très immersif avec le public qui est là, qui regarde ce qui se passe à travers les écrans géants dans la salle. On comprend un peu mieux ce que la personne peut vivre sous hypnose grâce aux casques virtuels et les écrans géants. On a comme la perspective de cette personne-là. Alors, c'est très interactif comme numéro où j'hypnotise les gens avec une odeur. Alors, avec une simple odeur, les gens s'endorment et c'est pas du chloroforme ou du formol. Alors, mais ça marche.
Merci beaucoup d'être venu.
Ça me fait plaisir.
Mesmer, comment l'hypnose a changé ma vie, publié aux éditions Michel Lafond, 9h38, la pause, et on revient après pour la suite.